Variations en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir, rendez-vous mensuel dans Variation. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche. Hervé qui est avec nous au téléphone sous la neige depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Eh bien, bonjour Guy, bonjour Bernard, bonjour à toutes et tous. Oui, voilà, il neige sur Paris, en fait, il a neigé. Voilà, mais ça doit être moins beau qu'à Arras, hein, quand même.
Sans doute. Ici, c'est merveilleux. Alors, aujourd'hui, premier roman au sommaire de Variations en noir, ce mois-ci, une nouvelle venue et un nouveau venu, donc, dans le monde des auteurs de noir, pour deux romans qui n'ont finalement que ce point commun d'être des premiers romans, puisque l'un relève plutôt de l'anticipation, certes d'un avenir presque à nos portes, de l'anticipation donc, et de l'humour bien noir, alors que l'autre s'inscrit pleinement dans le roman historique sérieusement documenté. Nous évoquerons tout d'abord Jennifer Ave pour Casdal, publié aux éditions du Bout de la Ville, et Alexandre Courban pour Passage de l'Avenir 1934, aux éditions Agulot. Précisons de suite, pour celles et ceux qui écoutent cette émission avant le 25 janvier 2024, qu'il faudra attendre cette date, le 25 janvier donc, pour trouver en librairie le roman d'Alexandre Courban. Sacrée surprise, Hervé, que ce Casdal de Jennifer Ave aux éditions, les éditions du Bout de la Ville. Alors, avant d'évoquer ce roman et son auteur ou son autrice, un mot sur cet éditeur ariégeois. Tu les as rencontrés, Hervé, pour la revue 813?
Alors, je ne les ai pas rencontrés physiquement, mais en fait, bon, on a beaucoup échangé, et moi, j'avais été prévenu de leur existence par un adhérent de très longue date de 813, Pierre Séguélas, qui habite dans le coin, là-bas, et qui m'avait dit, ah ouais, j'ai rencontré, moi, enfin, lui, il les avait rencontrés, évidemment, in vivo, un collectif d'éditeurs, une éditrice, ils sont quatre, je crois, et ils font un boulot super, ça devrait t'intéresser, tout ça, et c'est comme ça que j'ai connu cette maison d'édition, effectivement, d'une commune de l'Ariège, le Madasile, qui s'est créé en 2012 pour éditer un premier livre qui était lié à leur colère face à un mensonge, enfin en tout cas le fait qu'on dissimulait beaucoup de choses à propos de la catastrophe de Fukushima. Ils ont publié un livre extrêmement documenté qui s'appelle Oublier Fukushima, et puis après ils ont décidé de continuer cette aventure collective éditoriale et d'éditer ce qu'ils appellent des paroles infâmes, c'est-à-dire à différents titres des textes qui peuvent être des documents, de la fiction, des entretiens avec des gens à qui on ne donne pas en général la parole. Ça peut être une malade du cancer qui refuse les diktats médicaux, ça peut être la sœur d'un prisonnier en conditionnel abattu par le GIGN, ça peut être des paysans endettés par l'administration qui essayent d'échapper à à leur sort, enfin ça peut être plein de choses, avec une préoccupation anticarcérale. Moi j'avais remarqué dans leur catalogue qu'ils éditaient à la fois, pour ce qui était du passé plus lointain, des lettres d'Alexandre Marius Jacob, qui... avec son équipe des travailleurs de la nuit, comme il s'appelait, cambriolait les grands bourgeois pendant la Belle Époque, et qui a fait de son procès une tribune retentissante. Et puis, plus proche de nous, ils avaient publié, après son décès, des textes différents de Hafed Ben Othman, qui était voleur et écrivain, qui a donné notamment chez Rivage, pour ceux qui connaissent, des recueils de nouvelles et des romans comme Marche de nuit sans lune, Les forcenés, qui sont parmi les choses les plus justes qu'en France on ait pu écrire sur la prison, avec du réalisme et de la poésie en même temps,
Alors pour parler Hervé d'Hafed Ben Othman, il a fondé avec d'autres complices en 2001 une émission de radio, un journal d'opinion, L'Envolée, et donc l'équipe des éditions du Bout de la Ville, une partie de l'équipe participe à cette émission, et Le Monde est petit puisque Radio PFM diffuse cette émission chaque semaine.
Oui, et d'ailleurs, ils ont les éditions du Bout de la Ville en 2021, c'est-à-dire pour le 40e anniversaire d'une certaine abolition, ont publié un recueil de textes de L'Envolée au titre volontairement provocateur, mais pas provocateur gratuitement, qui s'appelait « La peine de mort n'a jamais été abolie ». Voilà, mais donc il y a chez cette maison d'édition évidemment une préoccupation anticarcérale forte, mais il y a aussi des choses qui nous intéressent par ailleurs, aussi comme un intérêt pour les musiques. Ils ont publié un livre sur le blues qui s'appelle Blues in Mississippi Night, qui est une conversation entre Big Bill Brunzi, Sonny Boy Williamson et Memphis Slim, excusons du peu, avec cette idée que le blues est quand même la voie de l'esclavage, une musique effectivement extrêmement politique. Ils ont publié aussi un abattoir à domicile, une chronique d'une utopie rock'n'roll, qui est un livre d'aventure, un camion, un groupe de rock qui part sur les routes, et puis on en arrive à mais je pense que tu vas nous en parler, à Casdal, leur premier roman, disons leur premier roman complètement fiction, et qui se trouve être un roman noir, d'où évidemment notre intérêt tout particulier.
Oui, alors c'est étonnant parce que la présentation des éditions du Bout de la Ville, quand tu les as rencontrés, ils expliquent, c'est un collectif. Notre ligne éditoriale se construit autour de textes singuliers et incarnés. Le mot incarné, pour moi, colle parfaitement, bien sûr, avec Casdal de Jennifer Ave. On pourrait même le réduire, à carné. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la suite de leur explication. Une ligne éditoriale empruntant à la fois au témoignages et à l'essai, qui nourrissent des pans de la critique sociale, donner la parole à celles et ceux qui ne l'ont jamais, la tâche que nous nous sommes fixés en tant que maison d'édition. Et concernant Casdal, qui est un livre de fiction, ça ne déroge pas à cette règle. C'est un roman noir et social, cinglant et radical, explique l'éditeur. On ne peut que partager cette... Ce constat, écrit qui plus est par une transfuge de classe. Donc un mot sur l'auteur, donc Jennifer Ave, qui a grandi dans les Ardennes. Il faut savoir tout de suite, le roman se situe dans les Ardennes, et elle écrit depuis une quinzaine d'années des séries pour la télévision. Casdal est son premier roman. Jennifer Ave, Hervé, tu l'as croisée, tu l'as rencontrée déjà?
Non, je ne l'ai pas rencontré, mais effectivement, son, c'est son parcours, c'est très intéressant parce que elle est, comme ils disent, transfuge. Enfin, elle est à la croisée puisque elle est nourrie de cette culture ouvrière, prolétarienne des Ardennes. Il y a d'ailleurs à l'intérieur de son roman, il y a une mémoire des luttes qui apparaît puisque on se souvient notamment que l'endroit vraiment très précis où se passe le roman avait été à la pointe de l'actualité en 82, je crois, et pendant plusieurs mois, puisque c'était s'y mêlait une lutte du bassin industriel de Vireux, de la sidérurgie, je crois, et une lutte importante antinucléaire contre la centrale de, je ne sais pas comment on dit, alors moi je continuerai à dire chose, mais
oui,
enfin, comme ça s'écrit, mais je crois que ça ne se dit pas comme ça. Mais voilà, et ça avait été un moment extrêmement fort de combat et de combat qui arrivait à mêler justement une lutte ouvrière radicale, mais j'allais dire classique, et une lutte antinucléaire plus nouvelle, ce qui était quand même une chose très très importante. Et ça aussi, c'est un mérite de Casdal de faire revivre cette mémoire enfouie et que, bien évidemment, on n'a pas très envie d'enseigner. À côté de ça, Jennifer Ave, effectivement, elle est montée à Paris, comme on dit, elle a fait la FEMIS, je crois qu'elle a été la seule diplômée de sa promo qui était d'origine prolétarienne. Et elle a, c'est une scénariste qui est recherchée. Elle a travaillé, elle travaille pour Netflix, pour Disney+, pour France TV. Elle a fait des scénars pour Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, par exemple. Et en même temps, justement, son livre dont on va parler là, peut-être dire quelques mots, il est pétri de ces deux expériences, c'est-à-dire l'expérience d'un milieu ouvrier et d'un milieu de boucherie aussi, d'abattoir, qu'elle connaît bien. Et de l'autre côté, ce milieu de la télévision avec ses paillettes, son cynisme, et voilà.
Alors donc, je disais, un roman d'anticipation, on peut parler peut-être de politique fiction. En France, les chômeurs sont devenus des parias et non des victimes, hein, de patrons voraces qui délocalisent, qui désindustrialisent. Alors dans le secteur, tu l'as dit, hein, il ne restait qu'un abattoir qui finalement délocalise aussi, qui ferme, et la centrale nucléaire qui est le seul, la seule structure qui permet de faire vivre une partie de la population. Alors quand on se retrouve au chômage, dans ce futur imaginé, futur très proche et très finalement réaliste, on a faim et tous les moyens sont bons. Donc le roman va prendre alors une tournure assez gore, va-t-on dire. On parle de parfois de cuvée du patron pour évoquer des bouteilles de vin, et ici il va s'agir de pâté du patron, puisque les ouvriers qui travaillent dans cet abattoir, hein, qui délocalise, ont décidé de poursuivre l'expérience. Alors, on sent aussi des références aux expériences un peu autogestionnaires, aux coopératives, hein, que l'on connaît, qui se développent. Sauf que, il faut, pour produire du pâté, il faut de la viande. Hervé.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est intéressant parce que il y a une expérience, ces ouvrières et ouvriers vont créer une SCOP, une société coopérative ouvrière de production, vont pratiquer une espèce d'autogestion anthropophagique, si on peut dire. Mais l'autrice ne va pas non plus, tout ça n'est pas une jolie épopée drapeau en avant, c'est-à-dire que ne seront pas épargnées non plus toutes les contradictions, tous les paradoxes et tout ce qui peut, ça ne sème pas non plus des illusions supplémentaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi le livre est parsemé de certaines citations. Il y en a une que j'ai choisie, en exergue de chapitre.
Oui.
C'était une citation de d'Emmanuel Macron, alors qu'il n'était pas encore notre très aimé président, mais qui était ministre de l'économie d'un gouvernement socialiste, je crois, et qui disait alors à l'époque, sans la moindre obscénité bien évidemment, « La vie d'un entrepreneur est bien souvent plus dure que celle d'un salarié, il ne faut jamais l'oublier ». Ça, on le sait bien. Et là, le problème est que l'entrepreneur, je crois que c'est Aymon, eh ben, il va décéder brusquement, un peu presque accidentellement, dira-t-on. Et si sa vie était dure, comme le président Macron nous l'annonce, sa chair va être assez tendre pour faire du paquet de patrons, et c'est comme ça que tout va commencer, quand même.
On n'en dira pas trop.
Enfin, ça, on peut le dire, je crois.
On peut le dire, bien sûr. Alors, tu parlais effectivement de citation. Moi, j'ai noté celle qui est en exergue. Du roman et qui résume bien en fin de compte ce livre, c'est tiré de l'opéra de Katsu de Bertolt Brecht en 1928. D'abord la bouffe, ensuite la morale. Et on est vraiment dans cette thématique. Et justement, il y a plusieurs questions qui sont abordées dans le livre. Celle du monde du travail, nous venons de le voir, celle aussi du rapport à l'animal. On est dans une société qui a évolué de ce point de vue-là. La question du nucléaire, la question aussi de la solidarité ouvrière, coopérative, tu l'as dit, et puis il y a aussi les questions de la place de la femme dans la société, parce que les personnages forts de ce roman sont des femmes, donc l'une qui vient de Paris faire un reportage, une vedette médiatique, mais qui connaît un peu la déchéance et qui vient se ressourcer dans
Claire Silésius, on découvre dès la première page, elle sort un peu harassée, elle a essayé de vendre du pâté ou des choses comme de la choucroute ou du cassoulet dans une espèce d'hypermarché oui, absolument. Et puis il y a les femmes de l'usine, voilà.
Voilà, c'est ça. Hein. Donc,
de sacrés
portraits et vraiment des questions. C'est un roman. Hein. On n'est pas dans un tract politique. On est bien dans un roman, mais clairement, comme l'explique l'éditeur, c'est un roman qui offre un regard très intéressant en termes de critique sociale.
Oui, ça offre c'est vraiment très intéressant en termes de critique sociale. C'est aussi un roman avec évidemment tout le côté gore assez jouissif qu'on peut avoir. Parfois, on a aussi l'impression d'avoir des scènes. On est dans un film de Georges Romero aussi. Mais il y a aussi une vraie gourmandise parce qu'il y a à plusieurs reprises. Je ne sais plus qui appelle ça, mais il y a une sorte d'inventaire charcutier qui est fait, je ne sais plus si c'est par Samia, l'ouvrière qui est très, 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 qui est une encyclopédie de la cuisine en même temps, qui va réaliser plein de recettes, ou par Olivia qui est la meneuse qui a aussi connu, qui a par des côtés, rappelle ce que Jennifer Ave peut connaître professionnellement. Elle a connu le fait d'écrire des séries, des trucs comme ça et tout, et en même temps elle est revenue à son milieu d'origine, ouvrier, par la force des choses également, et il y a comme ça des moments où c'est un livre aussi qui est à la fois, qui peut être par moments très noir, qui peut être parfois plein d'un excès très plaisant, mais c'est un roman qui est extrêmement jouissif quand même, en même temps qu'il pose des questions comme tu dis sur le traitement animal, sur la place des femmes, y compris en milieu ouvrier, avec de vieux comportements et aussi un féminisme qui peut être radical, la place, ce que devient la mémoire ouvrière, comment peuvent être menées des luttes aujourd'hui et leurs contradictions, tout ça dans un livre très très plaisamment déjanté quand même.
Un anthropophage qui avait dans l'idée de m'empoisonner. Il disait, petite tête, ôte-toi de la cmimette, je me suis résigné à le bouffer le premier mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Sauvage ou pirate, on se tire dans les pattes et le moins malin peut crever de faim. Soldat ou artiste, on est tous des tristes, ciré malheur à qui manque d'estomac. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Dans ma garçonnière, misère de misère, la femme du voisin se fait couler un bain. Quand la mienne se déhanche, j'ai le cœur qui flanche de voir les autres tudieux la bouffer des yeux. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Viendra le jour, certes, où la gueule ouverte, comme ça, de but en noir, j'irai me faire voir. Je ferai des orphelines, et par la racine, je vous ferai les orties et les pissenlits. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam.
Miam. Miam miam, vous écoutez Radio PFM Variation en noir.
Il faut quand même préciser que c'est une des scènes particulièrement drôles aussi du livre. Je crois que c'est Salazar, l'ancien légionnaire boucher en chef de l'abattoir, qui se met à entonner ça, et il y en a, et d'autres ouvriers, Anthony, Franck, etc., qui sont portés par ce rythme diabolique et qui se mettent tous à se dandiner en chantonnant ça. C'est quand même très drôle, oui.
Oui. Alors, il y avait une autre possibilité, hein, pour cette pause musicale. Jennifer, dans ce roman, évoque aussi le morceau de Motorhead, au titre beaucoup plus explicite, hein, It's the Rich, manger les riches, mais bon, oui. J'ai préféré le mambo miam miam pour un livre, comme le dit Gainsbourg dans sa chanson, pour un livre qui ne manque pas d'estomac.
Absolument.
Voilà. Donc, Jennifer.
Dans l'esprit du roman.
Voilà, oui. Jennifer Ive Casdal aux éditions, les éditions du Bout de la Ville. Alors, deuxième découverte, deuxième premier roman, Passage de l'avenir 1934 de Alexandre Courban aux éditions Agulot. Un mot, Hervé, sur les éditions Agulot et sur l'auteur.
Alors, les éditions Agulot, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. On en a déjà parlé, mais on aura l'occasion d'en reparler peut-être la prochaine fois, parce que elles sont, notamment, elles sont célèbres pour avoir, je crois, les premières, d'une manière un peu systématique, données, de braquer le projecteur sur les littératures de la Mitteleuropa, de cette Europe centrale. On leur doit notamment la découverte du romancier croate Jurica Pavicic, L'eau rouge et d'autres choses qui sont vraiment remarquables, mais plein d'autres auteurs. Et je dis ça parce que dans le numéro 813 qui vient de sortir, il y a un long entretien avec leur éditrice, Nadège Agulot. Mais ce qui est intéressant là...
Et nous en reparlerons dans un prochain Variation en noir.
Parfait. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'avec Alexandre Courban, on a la troisième, comment dire, la troisième intrusion de Agulot a publié d'abord chez les Français Frédéric Poulin, oui. Avec le succès qu'on sait. Mmh. Et puis il y a eu un recueil de nouvelles et puis un roman pas noir mais remarqué de Yann Lespoux. Et là maintenant, oui, nous avons donc Alexandre Courban avec le premier volume, je crois, d'une saga historique et policière à la fois, qui commence avec ce passage de l'avenir en 34 et qui, je crois, va aller dans cette période qui contient les prémices du Front populaire et qui va aller jusqu'à la 39, la débâcle, enfin voilà quoi.
Oui. Alors l'auteur Hervé Alexandre Courban, on le connaît, hein, Arras, oui. Il est membre du jury du prix Amila Mecker depuis quelques années, et notamment en tant que représentant d'un partenaire du Salon du Livre du 1er mai, le CCAS, hein, Caisse Centrale d'Activité Sociale de l'Énergie. C'est un historien, un élu parisien, Hervé, du 13e arrondissement que tu connais très bien, et un historien donc qui a travaillé justement sur le journal L'Humanité, hein, une thèse, il a soutenu une thèse en 2005 consacrée au journal L'Humanité.
Ben oui, c'est d'autant plus intéressant que ces éléments sont très présents dans le roman Passage de l'avenir, c'est-à-dire que le cadre, on va y revenir, c'est le 13e arrondissement, qu'effectivement, qu'Alexandre Courban ne décrit pas d'une manière ni exotique, ni purement touristique, comme les gens qui viennent visiter aujourd'hui notre arrondissement, et c'est très bien d'ailleurs, mais parce qu'il est l'arrondissement du street art parisien, comme hier il était censé être le Chinatown parisien, ailleurs, mais par contre c'est un cadre qu'il connaît très précisément dans son côté historique. Il est effectivement à la mairie en charge de la mémoire et du patrimoine, Alexandre Courban, et c'est un habitant du 13e. Et par ailleurs, un des deux personnages principaux, disons, de ce passage de l'avenir, c'est Gabriel Funès, qui est un jeune journaliste à l'Humanité et qui est aussi c'est l'histoire de ce journal. Courban la connaît très très bien grâce à ce
travail,
évidemment, ses engagements et tout, mais aussi grâce à cette thèse qu'il a faite sur l'histoire de ce journal de 1904 à 1939. Voilà. Mais il y a quelque chose que, avant qu'on dise quelques mots de l'intrigue elle-même, d'abord je voulais dire que il y a peut-être le petit point commun qu'on pourrait voir entre ces deux romans qui sont très dissemblables, évidemment, c'est la gourmandise, parce qu'il y en a aussi. Dès la page 19, il y a une recette du sauté d'agneau à la cannelle.
C'est vrai.
Qui est en cuisine, c'est justement notre journaliste à l'UMA, Gabriel. Mais là, c'est vraiment de l'agneau qui est cuisiné. Enfin, oui. On peut le garantir. Mais il y a quelque chose, et puis après je te laisse parler du roman, mais j'ai retrouvé un extrait d'une lettre d'Henri Miller, qui date de 1933, on est donc très très vraiment dans la même période, et qui écrivait « Le 13e arrondissement est de mon point de vue le plus intéressant de tous les quartiers de Paris. C'est un petit univers en soi et le plus putride, le plus sordide, le plus morbide et le plus hallucinant. Voyez-le à l'heure du dîner et après, à minuit. » Voyez-le jour après jour dans la pluie et le soleil, en bonne et en mauvaise santé, la tête claire et avec la gueule de bois, le ventre plein et avec les tiraillements de la faim. Faites un livre sur le 13e arrondissement seul. Et dans cette lettre d'Henri Miller, je trouve qu'en fait, le roman d'Alexandre Courban, il fait parfaitement écho à ça. parce que pour aller très vite, je ne vais pas faire une histoire du 13e, que évidemment je connais un petit peu aussi, c'est mon arrondissement depuis toujours, mais c'est un arrondissement qui a la propriété de s'être fait plus sur le tard par rapport à d'autres, puisqu'il y a eu la fin des fortifs, enfin voilà, c'est un arrondissement qui a mordu sur ce qui était avant de la banlieue, tout ça, mais c'est aussi un arrondissement qui a été un arrondissement très très, on y pense beaucoup pour certains arrondissements du nord et du nord-est de Paris, mais moins pour cet arrondissement du sud, c'est-à-dire que c'était un arrondissement très ouvrier, très avec des grosses industries, Panhard-Levassor, la Sudac, la raffinerie Say, les sucres Béguinçay, enfin, qui va d'ailleurs être beaucoup cité dans ce roman, l'usine de sucre de la Jamaïque, comme on l'appelait. Et puis, c'est un arrondissement qui avait aussi nombre d'artisans et toutes choses qui ont bien évidemment disparu avec le temps, mais aussi où la commune de Paris, d'où le fait qu'on ait une place de la commune de Paris sur la butte aux Cailles. La commune de Paris y a été très très forte. Il y a eu des combats, il y a eu des expériences ouvrières très importantes. Tout ça pour faire un bref historique. Et ça, le roman d'Alexandre Courban dans ses années 30 et tout, il en est un écho absolument parfait. Et on sait bien qu'il y a eu le je sais que tu m'en parlais au téléphone, il y a eu Brouillard au pont de Tolbiac de Léon Mallet.
Léon Mallet, oui.
Voilà, peut-être le roman le plus célèbre mettant en scène Nestor Burma. Mais, et puis après, beaucoup plus proche de nous, il y a eu des écrivains comme Frédéric Fajardi dans ses premiers romans, ou Alain de Mouzon, qui ont mis le 13e très à l'honneur, mais en même temps, je pense qu'Alexandre Courban rend également un hommage extrêmement romanesque, mais à cet arrondissement pas très connu, qui est absolument remarquable dans une intrigue et policière et historique impeccable.
Oui, et puis une documentation vraiment au niveau. Et puis, il évoque une rue, la rue Bobillot, que tu connais très très bien. Et donc, j'ai appris qui était ce Bobillot, hein, donc un sergent du génie. Qui avait été distingué pour son courage lors du siège de Tien Kang pendant la guerre franco-chinoise de 1880 à 1885. J'ai aussi appris qu'il y avait une guerre franco-chinoise.
Donc une assez longue rue qui part de la place d'Italie jusqu'à la place d'Orangis, que je connais bien car j'y habite, et qui par ailleurs, mais je n'ai jamais mis la main dessus, a écrit, paraît-il, des poèmes.
Ah,
voilà.
Bon, ben voilà, une recherche en perspective. Donc, nous voilà dans le 13e, 1934. Alors, il faut préciser que Hitler est au pouvoir en Allemagne, que l'extrême droite en France est particulièrement arrogante. Et d'un autre côté, la riposte s'organise, les premières manifestations ouvrières importantes se mettent en place, et le corps d'une jeune femme est repêché dans la Seine. Et effectivement, deux personnages qui n'ont vraiment pas grand-chose à voir vont finalement se retrouver pour mener l'enquête et dénouer cette intrigue. Il y a un commissaire, Bornec, prend sa mission de policier vraiment très très au sérieux, qui cherche à trouver la cause de ce crime, et puis la personne qui a commis ce crime, et Gabriel Funel, donc journaliste à l'Humanité, qui va lui aussi mettre en œuvre ses contacts, ses relations, pour essayer de dénouer cette intrigue, Hervé. Et alors une intrigue, donc on est vraiment dans le tu l'as dit, hein, on est dans le monde, dans le milieu Paris ouvrier, Paris ouvrière aussi, j'ai envie de dire, oui, avec des problématiques liées à l'emploi féminin que l'on connaît toujours, la domination masculine, le harcèlement sexuel, etc. Et Alexandre Courban va remonter le fil, hein, de ce crime et développer tous ces aspects sociaux, historiques.
Bah, tout à fait. Il va y avoir, bon, évidemment, il y a ces deux personnages qui vont avoir un peu une sorte d'alliance contre nature, mais pour retrouver qu'elle est pour essayer d'élucider le mystère de la noyée du pont national, comme on dit. Mais donc Gabriel, le journaliste Aluma, et le commissaire Gournec. Mais il va y avoir un rôle important joué par exemple par une jeune ouvrière qui est prénommée Camille. Oui. Camille, un prénom mixte, comme s'appellent les gens sur les Andes, notamment, aujourd'hui. Mais effectivement, et ça va être aussi l'occasion, ce roman, il est l'occasion de parler aussi justement de tout ce qui est à la marge, alors à la marge géographique, à la marge sociale, il est question d'un ce qui a été un fameux boulevard de la zone, à la limite entre ce qui est le 13e aujourd'hui à Ivry. Il y est question de plein d'endroits, la cité Jeanne d'Arc, en fait, qui ont eu un rôle social et historique important dans l'arrondissement. Mais il y est question aussi des usines que Gabriel va aller voir. Il va rencontrer Camille, qui travaille, je crois, justement à la raffinerie Fay.
C'est ça.
Il va être question de ça, il va être question du harcèlement qui y règne, du sexisme qui y règne, y compris en milieu ouvrier, il va être question des étrangers, et tout ça sur fond de, à la fois de ces ligues factieuses, fascistes, etc., dont, qui montent depuis février 34 et leurs manifestations devant l'Assemblée nationale, et à la fois les prémices de ce qui va devenir ce formidable mouvement qui va donner le Front populaire, et puis après avec les déceptions, des illusions et des fêtes qui s'en suivront. Mais c'est pour cela, et le fait que par des chapitres alternés on ait ça, on ait aussi la vie du journal L'Humanité. On a les débuts d'un jeune écrivain journaliste qui s'appelle Paul Nizan, par exemple. On a les affrontements qui peuvent exister entre un Paul Vaillant couturier et un André Marty, qui a été à la fois le célèbre, le héros mutin de la mer Noire, mais en même temps, comme disaient les anarchistes espagnols, le boucher d'Albacete, il sera le boucher d'Albacete pendant la guerre d'Espagne, en étant très stalinien, disons. Il y a une connaissance de tout cela, une documentation, mais qui en aucun cas n'est surplombante, mais
non.
Nourrit un récit absolument dynamique et très réussi.
Oui, il y a une ambiance. On évoquait Léo Mallet, et c'est vrai que, bon, en lisant ce roman, moi je m'attendais à voir débarquer Nestor Burma. Alors il y a un décalage d'époque, mais il y a de ça, quoi. Hein. Donc c'est une réussite de ce point de vue-là, Hervé. Mais voilà, donc
il y aurait pu y avoir les débuts. On aurait pu effectivement y croiser un Nestor Burma comme Patrick Pécherot l'a fait. Je crois que c'est dans Boulevard des Branques, je ne sais plus, le fait vivre Burma avant les mystères de Paris. Disons voilà.
Voilà, donc deux premiers romans que nous recommandons chaudement. Dans cette période un peu hivernale. Donc, Jennifer Ave pour Casdal, les éditions du Bout de la Ville, et Alexandre Courban, Passage de l'Avenir 1934, à Gulot, je rappelle, disponible en librairie à compter du 25 janvier 2024. Voilà, c'était Variation en noir dans Variation. Une émission mensuelle de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier donc avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir, bien le bonjour au 13e.
Merci beaucoup, bonne année au fait à toutes et tous,
oui,
et puis bonne lecture et à très bientôt.
Voilà, donc au revoir et rendez-vous dans un mois.